Daiquiri.
L'émission LGBTQ transpé des bigouines de Reims.
Bon, surtout Gwyn.
DKR
Daiquiri sur Radio Primitive.
Yeah, fuck you. You don't fucking know me.
And I'm as free as the wind that's blowing out on this beach.
Daiquiri.
Daiquiri.
What are you all looking at?
DKR. Bonjour, 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 bonjour.
Bien le bonjour, bien le bonjour sur Radio Primitive, le 92.4 FM à Reims. C'est DKR. Qu'est-ce que c'est DKR ?
C'est l'émission de mai, c'est l'émission Transpédé Bigouin LGBTQPI+, et tout ça, de Reims, de la Radio Primitive.
Ouais, on est content d'être avec vous, il est 18h.
Parce qu'en mai, on fait ce qu'on nous plaît, et du coup, ça nous plaît d'être là.
Ouais, et ça nous plaît tout le temps d'être là, pas qu'en mai d'ailleurs, Gwen, on a le droit d'être là tout le temps et tout le temps contente.
En plus là je suis encore plus contente parce que je vais parler d'un sujet qui me plaît.
Oui, c'est toi qui vas parler voilà, aujourd'hui parce que j'ai pas beaucoup de voix en plus donc ça tombe bien.
Voilà, Zobi Zoba, c'était même pas prévu. Donc aujourd'hui on va parler de JDR, mais qu'est-ce que c'est ? Jeu de rôle sur table.
Mais oui.
TTRPG en anglais mais pas Titi's les seins, tabletop.
Alors moi je connais rien du tout, alors c'est pour ça que c'est Gwen qui va mener cette émission, mais elle va nous faire découvrir plein de choses pendant une heure, c'est le but. Hein,
je vais vous faire l'historique de comment ça s'est créé, je vais vous expliquer ce que c'est exactement, et surtout pourquoi on en parle dans cette émission, je vais vous parler du lien entre ce hobby et les queers, et notre communauté, parce que c'est pour ça que je voulais faire le focus dessus.
D'accord. Donc,
alors je vais commencer par vous choquer avec une petite musique étrange.
Ah bon ?
Donc pour les vieux de ma génération, c'est une chanson de Dorothée.
Mais pourquoi tu dis ça ? Parce que moi je connais aussi.
Bah oui, mais de toute façon, elle a tellement été longtemps à la télé. Donc Dorothée, son vrai nom c'est Frédérique Hochedé, qui est une chanteuse, actrice et animatrice télé, qui a été sur Récréa 2 entre 1978 et 1987, et ensuite qui a été connue par le Club Dorothée, que moi j'ai connu, de 87 à 97.
Eh ouais, quand même.
Alors en plus, 10 ans, donc elle a marqué beaucoup de générations. Il y a plein de rumeurs qui tournent comme quoi elle serait peut-être lesbienne.
Non, mais ça, c'est à
parce qu'elle a jamais parlé de qui avec elle, elle était très discrète sur ça. Moi, il y avait des rumeurs comme quoi elle avait été virée de Dorothée parce qu'elle voulait faire son coming out. Après, j'ai retrouvé une vidéo d'elle qui se promène dans un musée avec un gold ceinture et qui baise un cul en pierre à la fin.
What?
Donc, c'est quand même très, très queer. Et il y avait des rumeurs comme quoi elle avait un mec, mais apparemment, qu'elle avait perdu quelqu'un et que c'était compliqué pour elle. Et apparemment, ça, c'était faux. Et les dernières rumeurs que j'ai eues, c'était Jackie, donc un autre personne qui était au club Dorothée, qui apparemment dit qu'en fait, elle était mariée à un de ses fans. Donc, au moins elle était de bi.
Au moins elle était de bi.
C'est juste pour justifier pourquoi je la passe. Et quelle chanson j'ai passé Dorothée ? Alors je vais pas passer ma préférée chanson de Dorothée parce qu'il y en a beaucoup.
C'est quoi mais ta là, préférée ?
Je le dirai une autre fois. Parce qu'en plus apparemment il y a une chanson crypto lesbienne qu'elle a chantée.
Oh, nouvel indice. Je veux savoir,
nouvel
vrai.
Indice. Donc là je vais vous passer un truc donc en lien avec le sujet. C'est la chanson du dessin animé Le Sourire du Dragon, qui est en fait un dessin animé américain de 1983, qui est du coup basé sur Dungeons and Dragons. Donc c'est le jeu de rôle sur table le plus connu du monde, même tellement connu qu'aux États-Unis on dit play D&D, Dungeons & Dragons, et pas jouer au jeu de rôle, tellement c'est connu. Et donc c'est un dessin animé qui a eu 27 épisodes de 22 minutes, qui apparemment est un bon nanar, mais qui a l'hommage d'avoir parlé de Donjons et Dragons pour faire la propagande aux enfants.
Tu vas donner envie aux auditeurs, auditrices de re-regarder.
Exactement.
Ça s'appelle Le Sourire du Dragon, donc vous pouvez très certainement le retrouver en ligne.
Oui.
Ça tombe, c'est...
Donc bon, faites-vous pourri.
Plaisir et faites-nous un retour. Est-ce que c'est nul ?
Il faut que je les mate, moi, je les ai jamais regardés en plus.
Alors allez, on écoute Dorothée. Ça Dorothée ? Allez, c'est parti.
Des vagabonds, pauvres prisonniers du donjon.
Tu écoutes ça tous les matins, je pense.
Non, mais le refrain, il reste dans la tête.
Oui, j'avoue que ça, les auditeurs et auditrices vont être ravis d'écouter au Club Dorothée. Voilà, ah, c'était bien ça. Le sourire du dragon, Dorothée, sur Radio Primitive. Parce que visiblement, elle serait peut-être queer, mais ça, c'est la vision de lesbienne de Gwen avec le monde qui serait lesbien.
Si un jour je la rencontre, je lui demanderai. Et je vous ferai un compte-rendu, promis.
Prochaine mission en 2023, rencontrer Dorothée pour avoir les réponses à vos questions. D'autres musiques avec beaucoup de joie et de jeux vidéo, et pas que, parce que moi au final, les musiques que j'ai choisies, elles n'en ont pas. Hein. Donc
oui,
on sera à côté. Mais Gwen, tu vas donc nous parler aujourd'hui de JDR, puisque toi, tu pratiques et tu es même maître du jeu.
Maîtresse du jeu.
Tu es même maîtresse du jeu. Donc peut-être que tu peux nous dire déjà plus en termes plus historiques comment et quand ça a été créé le jeu de rôle.
Alors le jeu de rôle, ça vient à la base d'un autre jeu qui s'appelle le Wargame. Donc c'est des petits jeux que des adultes jouaient à l'époque avec des petites figurines pour jouer à la guerre. Donc avec des unités, souvent c'était pour refaire des choses historiques, donc des batailles napoléoniennes, des batailles de la Seconde ou Première Guerre mondiale. Où bah, des joueurs s'affronteraient avec leurs petites armées, leurs petites figurines qu'ils avaient peint, tout ça, sur un plateau, comme des grands enfants, on va dire.
C'était des frustrés, des batailles perdues, bah, c'est ça ?
En sachant qu'apparemment, dans ce milieu, c'était beaucoup des militaires ou des réservistes. Donc il y avait quand même un fort potentiel conservateur, on va dire, et du coup de mâles blancs hétérosexuels qui jouaient à ça. Donc ça, c'est en 1960. C'est du combat de troupe par troupe, et maintenant ça existe toujours, et les plus connus des licences dans ces jeux là il y a Warhammer qui est super connu, donc ça peut être en fantastique ou ça peut être en 40 000 dans l'espace, ou c'est un univers très glauque avec des têtes, des crânes partout, de la destruction, des trucs horribles, mais c'est assez chouette. Il y a le Seigneur des Anneaux qui est aussi un jeu de wargame, et Star Wars aussi avec Star Wars Légion. Alors, en 71, il y a un premier jeu, parce qu'il commence à flirter avec le jeu de rôle, parce qu'il y a une partie apparemment où l'arbitre, parce qu'il y avait un arbitre qui est entre les deux joueurs, a rajouté des personnages non-joueurs, donc des maires qu'on pouvait rencontrer pendant sur un plan de bataille, un villageois. Et donc, on a commencé à avoir ce côté, jeu de rôle. Donc ça, c'était vraiment le petit pas de côté. Mm-hmm. Et en 71, il y a eu le jeu Nidgard, qui a été créé en Angleterre, qui est une exploration d'un monde à découvrir, inconnu, avec des aventuriers, pour trouver des trésors. Donc ça, c'est le premier objet jeu de rôle qui est créé. Et en même temps, aux États-Unis, il y a alors le papa de tous les jeux de rôle, Gary Gygax, qui a commencé à écrire un jeu qui s'appelle Chainmail. Donc lui aussi, c'était un joueur de Wargame. Il vient du Midwest. Il a été témoin de Jéhovah jusqu'en 1981.
Ah,
c'est un petit détail, mais c'est aussi important de le dire. Et en fait, bah, il a commencé à faire justement du combat de personnage contre personnage dans les wargames, alors que d'habitude, c'était du troupe contre troupe. Et petit à petit, il a commencé à dire bah, « Tiens, et si on ne faisait pas ça dans un monde magique avec des créatures fantastiques et justement de la magie ?» Et bah, ça, il a réfléchi, il a bossé dessus avec un autre créateur qui s'appelle Dave Anderson. Et en 1974, ils ont sorti « Donjons et Dragons ».
D&D,
vraiment le jeu culte. Les plus vieux se souviennent de la boîte rouge, qui est apparemment la boîte culte, parce que tout le nécessaire du jeu était dans une petite boîte.
Ils jouent à ça dans Stranger Things.
Oui,
donc tu vois, même les jeunes d'aujourd'hui, ça leur reparle.
Ça, vous allez voir dans l'historique pour voir un peu les tribulations qu'ont eu le jeu de rôle. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'est tellement connu qu'en Angleterre et en Amérique, on dit jouer à Donjons & Dragons et pas jouer au jeu de rôle. Et je peux vous donner les stats actuelles. Enfin, en 2020, il y avait 40 millions de personnes qui jouaient à D&D, 40% qui avaient moins de 25 ans, 11% qui avaient plus de 40 ans, et il y avait 39% de femmes qui y jouaient. En sachant que ce sont les chiffres avant le Covid, et qu'avec le Covid, bah, grâce au virtual tabletop, donc les tables virtuelles pour pouvoir jouer en distanciel, donc du coup, ça a explosé pendant le Covid, parce que les gens avaient du temps et avaient besoin de s'occuper, de se distraire. Donc je pense que là, les chiffres, ils ont pratiquement doublé peut-être. Enfin, en tout cas, ça a permis aux médias d'être encore plus visibles.
Et justement, est-ce que tu peux nous en dire plus sur qu'est-ce que c'est de jouer en fait une partie de jeu de rôle, en quoi ça consiste ?
Alors, pour le jeu de rôle, en fait, donc, la base, il y a un livre de base avec à l'intérieur les ensembles de règles et de mécaniques qui permettent de jouer le jeu. Donc ça veut dire que souvent, il y a un univers. Donc là, je vais prendre l'exemple de Donjons & Dragons. Donc ça se passe dans un univers fantasy avec des dragons, des trolls, de la magie, tout ça, dans une période qui ressemble à une sorte de Moyen-Âge fantasmé qui n'a bien sûr jamais existé, avec des races différentes, des elfes, des nains, des fées, plein de choses comme ça. Et pour ce cadre, les règles, elles permettent de régler ce que vont faire les joueurs, donc les personnages que vont jouer les joueurs. Ça va régler les règles de la magie, les règles du monde, les compétences des créatures, les compétences du joueur, les capacités. Enfin, du coup, c'est très, très compliqué, très mathématique, parce que techniquement, c'est beaucoup des probas, des stats. Et en fait, tout ça va être fait en jeu, alors par le biais donc, de l'imagination et du coup de ce qu'on va dire, ce qu'on va faire. On va parler, le personnage va parler pour faire parler son personnage au maître du jeu, qui va dire si c'est possible, si c'est pas possible. Et souvent, il va avoir le fameux jeu de dés. Donc avec, là dans Donjons & Dragons, c'est un des 20. On lance un des 20 et selon le résultat, selon les caractéristiques que votre personnage a, on peut voir si tu as réussi ou pas réussi l'action. Et selon ce qui se passe, bah, ton aventure va avancer bien ou négativement. Alors, on a dit tout à l'heure, donc moi je suis maîtresse du jeu, donc c'est moi qui m'occupe de préparer en amont tout le monde, donc c'est-à-dire j'ai lu les règles du jeu, je les connais, je connais les personnages que vont jouer mes joueurs, je décide où vont jouer mes joueurs, donc ou mes joueuses, donc dans quel monde, dans quelle ville, dans quelle région, dans quelle époque, tout ça. Là on va rester sur Donjons & Dragons, bah, personnellement je fais du Héros et Dragons, qui est une version française qui se passe à Alarian. Et c'est moi qui vais faire tous les adversaires qu'ils vont rencontrer, tous les personnages non-joueurs, donc le maire, la serveuse, le prostitué, trucs comme ça. C'est moi qui vais les interpréter.
C'est toi qui fais les limites aussi de ces personnages, du coup ?
Oui, c'est moi qui fais les limites, en sachant qu'il y en a qui sont plus ou moins importants, il y en a qui sont juste pour donner des quêtes, il y en a qui sont juste là pour l'ambiance, il y en a qui sont vraiment importants dans le scénario, parce qu'à la base, il y a toujours une histoire, les joueurs doivent jouer quelque chose et découvrir des choses, et donc moi j'ai prévu une grande trame, et normalement ils doivent suivre. Alors bien sûr, vu que c'est les joueurs qui prennent les décisions, c'est jamais linéaire,
c'est ça
qui est drôle.
Ça doit demander énormément de travail en amont, oui, de prévoir un peu.
Faut toujours prévoir si jamais les joueurs vont à droite au lieu d'à gauche. Faut prévoir pour arriver à les remettre sur là où on veut, ou sinon les suivre et arriver jusqu'à où ça mènera. Enfin, du coup, c'est vraiment un truc assez chouette. Et les joueuses, eux, l'avantage, c'est qu'ils créent et ils jouent leurs personnages. Donc des fois on peut jouer des personnages pré-tirés, donc ce sont déjà des personnages qui sont déjà faits avec les caractères qui sont déjà prêtes, l'histoire, le petit background du personnage qui est déjà fait, mais on peut aussi tout inventer si on prend le temps, et c'est ça qui est chouette et qui permet justement de personnaliser. Et le dernier type, c'est les personnages non joueurs. Donc eux, je vous disais, c'était les personnages que moi je vais jouer. Donc l'armurier, l'ouvrier, le chevalier qu'on croise. Et c'est comme ça que j'interprète, enfin que j'arrive à faire créer, à rendre vivant le monde.
D'accord. Et comment on sait que c'est fini alors? Parce que tu sais quand tu démarres une partie, mais comme, enfin, tu vois, moi, quand je joue à des jeux, je sais à peu près pour combien de temps j'en ai. Là, c'est plus difficile avec le jeu de rôle, parce que je suppose que, enfin, toi, tu en animes, donc t'es maîtresse du jeu, et vous vous retrouvez régulièrement. Est-ce que c'est pour jouer au même jeu à chaque fois, le poursuivre, ou est-ce que vous passez d'une histoire à une autre en fait?
Bah, il y a plusieurs formes. Il y a le one shot. Donc là, c'est vraiment normalement juste une histoire. Donc ça peut durer de 2 à 8 heures. Alors, tu n'es pas obligé de jouer d'une traite, mais tu peux jouer en deux fois. Ça dépend de l'endurance de des joueuses et du MJ aussi. Après, il y a les campagnes où là, c'est des choses qui peuvent durer 6 mois, 10 ans. Il y a des personnes qui jouent la même aventure depuis 10 ans. Ils font évoluer leur personnage en jouant une fois par mois ou même peut-être plus. Et pendant la moitié de leur vie, c'est cette quête qu'ils vont faire. Hein, parce qu'à chaque fois, il y aura des rebondissements, des nouvelles choses à découvrir, de nouveaux trésors à trouver. Donc, c'est ça qui est rigolo, c'est que vraiment, on peut moduler selon la pratique qu'on a envie de faire. Si on est un hardcore gamer et qu'on veut en faire tout le temps, on peut avoir sa campagne qui dure des années. Et si on est juste curieux pour découvrir en plus d'autres univers et d'autres systèmes, on peut justement jouer en one-shot ou en mini-campagne qui dure un peu, on va dire, 6 mois. En gros, moi, souvent, la plus grosse campagne que j'ai faite a duré 6 mois.
Donc, on peut très bien juste s'initier, et même si ça...
Oui, il n'y a pas même projet de finir, exactement. Tous les secrets ne sont pas obligés d'être découverts. Tant qu'on s'est amusé, tant qu'on a été ensemble pour faire un truc, c'est le plus important.
Super. Et est-ce qu'il y a, du coup, des différences entre les différents jeux de rôle? Comment ça se passe?
Ah oui, là, on parlait de Donjons & Dragons, mais du coup, il y a plein d'univers différents. Il y a un JDR Star Wars, il y a du JDR Seigneur des Anneaux, il y a des choses où tu joues des insectes. Il y a vraiment tout un panel de possibles, parce qu'il y a des éditeurs professionnels qui en éditent, tu as de l'autoproduction et tu as aussi les indépendants qui font des comptes. Donc il y a vraiment une manne assez impressionnante. Et pour Donjons et Dragons, il y a une OGL, donc c'est la version libre en fait, du système de jeu, donc, où les joueurs ont le droit de le modifier, de créer des choses avec. Tant que ça ressemble pas trop à Donjons et Dragons, et ça permet justement une création assez impressionnante. Et au niveau du système de jeu, alors il y a des jeux de rôle qui se jouent sans dés, c'est possible, avec juste de la narration, mais au niveau des dés, il y a plein de différences. Tu as des systèmes, c'est le D20, donc un D20 face, il y en a d'autres, ça va être un D6, il y en a d'autres, ça va être le D100, donc là c'est plus le côté stats, et il y en a qui ont des systèmes, alors on appelle le système Apocalypse, le système Fate, qui est un truc américain avec des plus, des moins, ou des rien. Et donc du coup ça permet différents... Alors, après c'est une question de préférence du maître du jeu ou des joueuses, de ce qui est plus sympa. Moi j'avoue, je joue beaucoup des 20 et des 6, je suis pas fan du des 100.
Et en fait, à chaque univers SF peut se transposer un jeu de rôle.
Chaque film, chaque BD, chaque truc que vous pouvez regarder, vous pouvez le transformer en jeu de rôle, genre avec le système Fate. Moi j'aimerais beaucoup faire du Jurassic Park parce que c'est un système qui permet de d'interpréter ce que tu veux. Donc et vu que j'aime bien Jurassic Park, j'attends avec impatience le film qui va sortir bientôt. Ça c'est une chose qui est possible. Et un petit avantage, enfin les gros avantages du jeu de rôle, c'est que déjà ça fait travailler l'imagination parce que c'est vous qui créez le jeu,
c'est ce qui me paraît complètement ouf en fait dans cette pratique là et ce qui moi peut-être me freine justement.
C'est pour ça que je t'ai pas encore corrompu.
Voilà,
bientôt je pense que
c'est vraiment ce truc de tu peux aller dans tous les sens en fait, tu peux vraiment ce manque de limite au final pour moi c'est, alors oui forcément pour les gens qui ont vachement d'imagination c'est super quoi tu vois, mais pour des gens un peu plus bloqués comme moi c'est, tu peux t'y perdre aussi.
Ça se découvre, faut commencer à jouer puis à petit tu vois ta zone de confort. Parce que tu as le droit d'interpréter ton personnage, donc de vraiment jouer comme un acteur, en choisissant sa voix, en faisant des belles tirades, mais tu peux aussi dire « mon perso fait ça », sans justement avoir ce côté performance.
J'avais un pote, quand je faisais mes études, qui lui en faisait in real life, tu vois, il mettait des costumes et tout, tu vois, mais je savais même pas.
Ça c'est le grandeur nature, donc là c'est pareil, sauf que là tu joues vraiment dans un endroit avec tous les personnages, c'est des gens qui y jouent, donc là j'en ai jamais fait, mais là c'est le niveau au-dessus. Et alors les autres avantages, c'est que du coup c'est possible de le faire sans beaucoup de frais. parce qu'il y a plein de jeux de rôle qui sont gratuits, qui sont accessibles facilement. Bon, il y a peut-être juste les dés à acheter, et encore, je vous dis, il y a des jeux de rôle qui existent sans dés. Bon, moi, j'avoue, je suis tombé dans le côté obscur, donc j'achète plein de petites figurines, de petits objets, de petits goodies. Donc, je me ruine clairement sur le jeu de rôle. Et puis, il y a aussi un peu la collectionnite aiguë qu'on peut avoir quand on est rôliste, de vouloir plein de bouquins, plein de trucs, différents univers, alors que tu vas jamais y jouer. Mais c'est juste pour dire, oh, regarde, je l'ai lu, c'est trop bien. Et un jour, j'y jouerai, peut-être un jour. En fait, c'est de l'investissement à long terme. Mais en tout cas, c'est des choses cool. Ça peut justement aussi vous permettre de développer votre côté théâtral. L'acting, ça peut vous permettre de vous sentir mieux, d'être un peu plus confiant, de parler plus facilement aussi à l'oral avec des gens. Parce que vous avez eu cette habitude dans le personnel de le faire, donc ça peut vraiment aider.
Et puis tu parles pas de toi directement, oui, c'est, incarnes.
Tu incarnes, c'est ça. Et bon, il y a le côté vachement convivial, parce que tu fais ça souvent entre amis, il y a une bonne ambiance, et surtout... C'est la meilleure excuse pour manger des trucs dégueulasses, des bonbons, des chips, même si j'essaye de m'arranger sur mes tables, de faire moitié elfie, moitié pas trop elfie pour pas non plus abuser. Mais c'est intéressant dans le jeu, parce que ça te permet de garder le sucre, ça te permet de rester focus. Et quand tu fais une partie de 5-6 heures, de reprendre ta petite dose de shoot, ça te permet de rester éveillé. On peut peut-être passer une petite musique.
Ouais, carrément. Tu veux...
Une de tienne.
Ouais, bien sûr. Allez, oui, je vais commencer par le loup. Le loup, il est strasbourgeois et c'est une copaine qui m'a fait découvrir cela. Il a participé récemment au Festival du Printemps de Bourges et moi je l'avais écouté à cette occasion et j'ai appris après que en fait c'était une connaissance. C'est un queer donc de Strasbourg, mais ça je l'ai déjà dit, qu'a sorti un EP il y a pas longtemps, mais alors j'ai zéro info dessus, mais vous pouvez aller voir, surtout après avoir écouté ce qu'on va se passer là tout de suite, un de ses premiers titres, je crois, qui s'appelait Jean 6 Dude. Il est rappeur et vous allez voir, ça claque plutôt bien. Alors le loup, d'ailleurs, on a eu ses contacts et on espère un jour le faire venir à Reims.
Oui.
Pour pouvoir le voir en live dans notre asso LGBTQIA+. Ça serait très chouette. Donc si vous aimez bien, et ben ça peut être une belle idée. On écoute le loup avec Jean 6 Dude.
On va pas s'emmerder avec j'insiste. Je veux pas ton avis, mon grand, garde ta salive, j'insiste. C'est pas tous les mêmes, on met qu'à moi et frais. On est victime du même système. C'est pas tous les jours que je vais garder mon calme. On sort de la terre sans terre. À moi seul je mange sans terre. Prêt à faire couler sans traître. De la sauge pour mes sorcières. J'en arrive à l'essentiel. Hey, extrême, violent, vénère, radical. Lâche le volant, je regarde même plus qui j'ai radical. Range tes arguments, j'ai pas ton time. Je dessine un sigil, un ovni en civil, repérage de cibles. J'écoute les signes, je peux arriver si vite, repartir en suicide. Mais je fais ça pour mes louvés loups. Je t'attends pas, je levais le. T'as peur quand on ouvre nous, queer enragé, grossé. A dit moi t'es touché, donc tu cries très fort. Pour dire que je suis tout chaud, pas besoin de crier fort. A dit moi t'es touché, donc tu cries très fort. Un dimanche à se toucher, on a crié fort. A dit moi t'es touché. Sans crier, je suis tout chaud. Ouais. Un dimanche à se toucher. Toi, tu cherches encore, c'est touchant. Laisse-les, ils sont touchés. Laisse-les, ils sont touchés, bichon. Tu transpires la bêtise dans tes commentaires. Y'a rien qui va, mais y'a rien qui m'étonne. Je compte plus le nombre de fois où qu'on m'a dit. C'est pas les bons méchants que vous combattez. Pédagogie, c'est la clé. Manger les hommes ne vous mènera à rien. Pas de démagogie dans mes textes. On t'embête, ces caleçons sales hors de ma vue. Bombe le torse, regarde dehors. Minorité fière et des milliers de sièges en sueur. On combat pas la haine avec des têtes sucettes en cœur. On remet des enfers avec marche à pelle, Douna. Viseur, tête, boomer, je peux provoquer des tornades. Ça y est, c'est trop, c'est devenu trop fou. Marche sale sans net, démon à trop fin. Gauche, droite, tout droit. Quand t'as des fumeurs, sans monter la haine de l'essence. Quand t'as des fumeurs, sans monter la haine de l'essence. Je fais ça pour mes louvés loups. Je t'attends pas, je levais le. T'as peur quand on ouvre nous. Queer enragé, grossé. A dis-moi t'es touché, donc tu cries très fort. Pour dire que je suis tout chaud, pas besoin de crier fort. A dis-moi t'es touché, donc tu cries très fort. Un dimanche à se toucher, on a crié fort. A dis-moi t'es touché, sans crier je suis tout chaud. Un dimanche à à se toucher. Toi tu cherches encore, c'est touchant. Laisse-les, ils sont touchés. Laisse-les, ils sont touchés. Laisse-les, ils sont touchés. Laisse-les, ils sont touchés. Laisse-les, ils sont touchés, bichon.
On laisse le graphe de fin.
Ah ouh.
Eh le loup, j'insiste, dude, c'était sympa, hein, franchement, moi j'aime
ouais,
bien.
Franchement, c'est trop classe.
Trop cool. Donc, allez découvrir ce que fait ce rappeur, le loup. Et nous, on poursuit avec
oui, on reprend.
Le JDR dans Daiquiri sur Radio Primitif, puisque Gwen est amatrice et maîtresse de jeu aussi. Amatrice, maîtresse de JDR. Et donc, elle a décidé de nous parler de JDR pour cette émission de Daiquiri. Et donc, là, on va peut-être partir sur la voie plus historique. Est-ce que tu peux nous dire comment ça a évolué, le JDR? Quels problèmes ça a rencontré au cours de son histoire?
On va dire qu'il y a à peu près trois périodes. Donc de la création, donc 71, 74, avec vraiment Donjons et Dragons, et les années 90, où bah, le milieu, comme je vous dis, est très conservateur, vu que bah, c'est des réservistes, des militaires, des mecs blancs hétéros. Au début, on a essayé de parler de sexe, mais finalement, on l'a totalement zappé, en mode ça doit pas être dans le jeu. Il y a un jeu qui s'appelle. Donc, c'est vraiment, on joue juste la vie quotidienne, mais pas ça. Tout de suite, le jeu de rôle a été accusé de satanisme parce que c'était des jeunes qui se retrouvaient, qui s'isolaient pour jouer à ça. Ça parlait de magie, ça parlait de choses.
Donc
il y a eu vraiment une terreur aux États-Unis. Il y a eu des reportages comme quoi des gamins s'étaient tués, s'étaient suicidés à cause du jeu de rôle. Donc ça a créé une grosse panique morale qui arrivait même jusqu'en France. Et je pense que ça a joué de pourquoi le hobby a pas débordé comme le jeu de société, tout ça, et resté un peu dans une niche parce que bah, on avait vraiment cette peur de se dire attention, c'est un truc qui peut être dangereux pour nos enfants.
Ouais, ça a été mis de côté carrément.
Ouais, ça a vachement joué. Alors après, bon, il y a eu bien sûr les problèmes, alors qui sont pas des problèmes innés au jeu de rôle, mais qui sont des problèmes liés à la société actuelle. C'est-à-dire que il y a une objectivisation et une hypersexualisation des personnages féminins.
Comme dans les jeux vidéo.
Voilà, comme dans les jeux vidéo, comme dans le film, comme dans tous les domaines de l'humain.
Culturel.
Alors, je vois dans un des jeux de rôle qui s'appelle TSR, c'était bien marqué clairement. Alors. Vous allez voir, il y a des trucs chouettes dedans, mais trucs un peu étranges. C'est le viol et le désir sexuel ne doivent jamais être présentés ni discutés. Ne décrivez pas les actes sexuels. La perversion sexuelle et les anomalies sexuelles sont inacceptables. Donc je ne sais pas après ce qu'ils entendent par perversion sexuelle et anomalie sexuelle, mais clairement, ce n'était pas très queer friendly. Alors le problème, c'est que ça, c'est dans les règles, c'est dans les trucs officiels, sauf que c'est les joueurs qui font. Et on a eu beaucoup de témoignages de joueuses du coup, qui se sont fait emmerder en partie parce qu'il y avait de la drague relou en se servant des personnages pour draguer la personne. Dans les tables entièrement masculines, ce qui arrivait quand même très souvent, dès qu'il y avait un personnage féminin, il y avait un risque de la violer, d'avoir des commentaires sur son physique. Parce que on est entre société garçon, on est entre nous, on rigole. Et justement, dans le jeu de rôle, on peut faire ce qu'on ne fait pas dans la vraie vie. Donc vu que le stéréotype du geek qui fait du JDR, c'est un mec blanc, hétéro, gros, asocial, qui habite dans la cave de ses parents et qui n'a pas de sexualité ou qui est asexuel, donc du coup, ça aide pas. Mais il y a toujours eu des joueuses. Elles ont toujours quand même arrivé à... Alors, pas beaucoup à parler à l'époque, mais de plus en plus maintenant. Et c'est vrai que les éditeurs ont quand même écouté pour essayer d'arranger ça et éviter que la moitié des joueuses se sentent mal.
Oh, y avait certainement des communautés de joueuses qui se retrouvaient sans que les gens le sachent pour peut-être échapper à ça aussi.
Ça, c'est arrivé plus tard. Parce que là, du coup, on arrive sur l'autre période, donc des années 90 aux années 2000, où là, il y a eu vraiment un truc qui est arrivé, ça s'appelle Vampire la Mascarade. Donc c'est un jeu où vous jouez des vampires, qui se passe souvent dans l'époque contemporaine, donc même si on peut le jouer aussi au Moyen-Âge, mais souvent c'est dans les années 80, les années 90, tout
ça. Et Buffy, elle arrive et elle tue tout le monde.
Je parlerai de Buffy à la fin, tu vas voir. Et c'est un JDR, donc gothique. Adulte, parce que les thèmes sont quand même, vu qu'on parle de vampires, donc on parle forcément de sexualité, forcément de rapport, parce que le fait de se nourrir en tant que vampire en suçant le sang, c'est quand même très érotisé et ça a été vachement lié au roman de Anne Rice. Et il y a un côté aussi très alternatif, avec même limite un côté punk, parce que dans le jeu Vampire les Mascarades, il y a les anarches qui sont un peu les résistants, les rebelles du groupe, donc qui ont vraiment un look et toute une philosophie totalement anarchisante. Alors là-dedans, donc on parle de sexe, on parle de drogue, donc c'est vraiment un jeu adulte et ça a permis du coup de commencer à évoquer plus ces thèmes et que c'est de l'importance en jeu. Alors c'est lié à tous les jeux qu'on appelle du monde des ténèbres, donc il y a Vampire la Mascarade qui en fait partie, mais il y a aussi les jeux Loup-Garou, où on joue un loup-garou, mage, où on joue un mage, changelin, où c'est, je crois que c'est, on joue une créature qui anthropomorphe, qui peut se changer. Et donc, du coup, ça, et en sachant que ces univers peuvent être liés, que tu peux croiser des loups-garous dans Vampire, c'est assez chouette. Et ça permet, alors bien sûr, dans les premiers temps, faut voir aussi comment c'était joué. Est-ce que c'était joué justement les clichés homophobes, est-ce que toutes les filles n'étaient pas lesbiennes justement pour faire du contenu pour mecs sans vraiment ça, c'est à voir. Mais je sais que dans mon Montréal by Night, qui est un livre de scénario de Vampire la Mascarade, il y a un groupe de vampires qui font du queer bashback. Donc ça veut dire qu'ils vont défoncer des hétéros pour protéger les personnes LGBT. Et ça, du coup, j'ai trop envie de trouver ce bouquin pour pouvoir y jouer. Ensuite,
donc il y avait déjà des, enfin voilà, c'est une occurrence des queers.
Ouais, c'est ça. En sachant que, comme je vous ai dit tout à l'heure, avant la présence de personnes LGBT, c'était quand même des stéréotypes. C'était souvent homophobe et transphobe. Soit c'était un gay, on savait qu'il y avait des gays, mais ça, c'était un secret et ça servait à rien dans l'histoire. Mmh. Soit comme dans Cyberpunk, donc un jeu de rôle qui est dans le futur. Qu'on connaît beaucoup là parce qu'il y a un jeu vidéo qui est sorti l'année dernière dessus où il y a des gays visibles qui ont un gang de gays, mais ils s'appellent les mannequins, ils sont très efféminés, enfin du coup c'est quand même assez cliché,
c'est resté dans le cliché, voilà.
Ben, voilà. Mais petit à petit, et justement après la période 2000, il y a l'apparition, ben, donc Vampire qui a ouvert la voie, mais après il y a eu le net qui s'est développé. Et donc du coup sur le net, qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé à partager son contenu, partager ce qu'on avait créé, partager les hacks de jeu qu'on avait pu faire, donc c'est-à-dire de transformer soit une histoire, transformer un système de jeu, faire justement apparaître peut-être des choses qui n'étaient pas là, donc du coup mettre du queer dans le jeu de rôle. Et ça, je pense que ça a permis vachement à justement nous rendre visibles et à commencer à essayer de lutter contre les côtés sexistes et LGBTphobes qu'ils pouvaient avoir.
Les gens ont peut-être aussi commencé à pouvoir s'en parler entre eux de ce qu'ils vivaient dans le milieu des jeux de rôle.
Oui, là,
tout ça,
avec
quoi,
le, ouais. Ça se lie presque au mouvement justement féministe 2.0 sur le net, où du coup on a parlé de ça, donc forcément on l'a étendu aussi dans ses hobbies, quoi. Mm-hmm. Donc c'est, je sais qu'il y a un site qui s'appelle Et pourtant elle joue, où il y a des témoignages de personnes meufs qui parlent des agressions sexuelles, du harcèlement qu'elles ont pu vivre en jeu. Pour justement, le but, c'est pas de se plaindre, c'est juste d'en parler pour s'arranger, pour que ça n'arrive plus.
Poser la réalité de aussi dans ces domaines-là, on n'est pas exemple de sexisme, quoi. Mmh.
Alors là, depuis quelques temps, comme je te disais, peut-être avec le confinement, ça a encore plus explosé. Le jeu de rôle revient. Le jeu de rôle revient à la mode. On en voit dans les séries, Stranger Things, iZombie, enfin dans plein de séries, on voit les gens jouer à Donjons et Dragons, et ça, c'est chouette. Le confinement a aidé parce que les gens en ont vachement joué grâce justement virtual tabletop. Et le média Twitch, qui est un truc où à la base c'est du stream de jeux vidéo, puis maintenant il y a aussi du contenu un peu politique, on va dire, dessus, permet aussi de voir maintenant des actual play, donc des personnes, professionnelles ou pas, qui jouent au jeu de rôle. Donc comme dans leur salon, sauf qu'ils se filment. Alors des fois ils peuvent être déguisés, tout ça, et j'avoue que quand je regarde la page Twitch sur les Donjons Dragons ou sur le jeu de rôle, il y a beaucoup d'émissions qui sont faites par des queers, par des personnes queer, des personnes trans, des personnes non binaires, et du coup certains jeux de rôle où il n'y a que des meufs cis ou des meufs cis, des meufs trans. Enfin, du coup, il y a vraiment du contenu super intéressant et je pense que ça, c'est pareil, ça fait du bien. Ça permet de montrer que ce média, il est aussi à nous, qu'on a le droit de le prendre et qu'on peut justement le faire exister. Cette évolution, pareil, a été prise par les maisons d'édition parce qu'ils ont commencé justement à faire évoluer leur monde, à essayer de retirer justement les LGBT-phobies, les sexistes qui pouvaient être dans les premières éditions. Il y a l'écriture inclusive qui a commencé à être pris par certains livres, et on a essayé de faire justement de revenir sur des choses, et bien sûr il y a le retour du bâton avec le petit mâle blanc qui va crier au wookisme en disant que c'était mieux avant, je jouerai avec les vieilles versions, il n'y a pas de problème de sexisme et d'LGBT-phobie, moi j'en ai jamais vu, le harcèlement, ouais, c'est bon, il n'y a pas que ça, c'est pas nous le problème, si vous faites ça, vous tapez sur notre communauté, donc vous allez les détruire, enfin voilà, tout ce genre de conneries qu'on entend encore beaucoup, et que dès qu'il y a un truc comme une avancée, là je vois en Donjons Dragons en ce moment, ils font pas mal de changements, justement, là ils ont sorti dans la cinquième édition, qui est la nouvelle édition qui vient d'être créée, où il faut réfléchir à la manière dont notre personnage se conforme ou non aux attentes de la culture au sens large en matière de sexe, de genre et de comportement sexuel. Vous n'avez besoin d'être confiné à des notions binaires. Donc clairement, il dit vous pouvez jouer comme vous avez envie. Mmh. Et il y a des personnes trans, tu peux jouer des personnes trans dans les règles. Il y a des kobolds qui changent de sexe. Il y a un dieu elfe qui est intersexe. Donc il y a vraiment des visibilités maintenant qu'il n'y avait pas avant. Quoi.
De toute manière, ils ont plutôt intérêt de suivre ce mode de fonctionnement et ce mode de jeu, puisque tu dis les queers investissent de toute manière.
On est dedans.
Si c'est si c'est un des publics cibles, ils sont obligés aussi de s'adapter, ne serait-ce que pour continuer à vendre leurs produits dérivés et puis les univers clair. Qui sont... Mais pourquoi, à ton avis, les queers font en particulier sont attirés par cet univers-là du jeu de rôle, justement?
Alors, si tu veux, on passe une petite musique et après, je vous dis tout.
Ah là là, le teasing.
Allez, le teasing. On peut passer la mienne.
Ouais. New Go Around Death Ruby D is D. D&D is gay.
Ouais, donc il y a un emo band de Charleston en Caroline du Sud qui a sorti deux albums en 2019 et en 2021. Et donc la chanson D&D is gay.
Ça veut dire donjon et dragon et finalement gay. Hein.
Ah, voilà.
Là, ça va en faire hérisser plus d'un. Hein.
C'est chou comme chanson, j'aime bien.
Oui, j'ai trouvé ça sympa aussi.
C'est mignon.
En plus, tu vas voir, on se fera écho entre chansons
folk.
C'est vrai. Oui, 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 bien sûr.
Aujourd'hui, c'est des folk. Des folk.
Et alors, arrêtons la suspense, s'il te plaît. Pourquoi les queers sont attirés par l'univers du jeu de rôle? Dis-nous tout.
Alors, je vais vous annoncer ça en 4 points.
Oh là!
Donc, il y a 4 points qui font que les queers aiment le JDR.
Moi, je pense que j'en ai un.
Ou 4 points, pourquoi les queers devraient faire du JDR.
Vas-y.
Parce que le but aussi, c'est de vous corrompre.
Ah.
Donc, le premier point, c'est l'importance de l'identité qu'il y a dans le jeu de rôle et justement à la création. On peut customiser son personnage, on peut faire ce qu'on veut dedans, on peut créer un background vachement important, on peut faire des pages dessus. Ça servira toujours à votre MJ. Et on peut représenter vraiment physiquement comme on a envie. Donc déjà, ça, c'est un truc super cool.
MJ, c'est pas Michael Jackson.
Non, c'est maîtresse du jeu.
Désolé, vas-y.
Donc il y a vraiment cette liberté qui est appréciée. Il y a beaucoup de personnes trans qui, du coup, vont témoigner que eux, ça a été leur premier, enfin, et le, ça a été leur premier moment où ils ont pu tester de justement, c'était un mec à signer la naissance, de jouer un personnage féminin, parce que sur une table, tu pouvais, parce que tu avais choisi juste de jouer un personnage féminin.
Ouais, c'est pas, c'est pas pensé comme étant forcément quelque chose.
Tu vas pas être vu à être trans parce que tu joues que des meufs. Non, non, c'est un jeu de rôle, tu joues ce que tu as envie. Tu joues, ça peut être vraiment, et ça, c'est vraiment un truc important. Et il y a beaucoup de trans qui disent que ça a été leur premier test. Parce que c'était acceptable, ça permettait de tester des trucs. En plus, avec l'acting, tu pouvais justement t'amuser à te looker comme ton personnage, à performer dans ta voix, dans tes manières, à fond quand tu parlais, et sans que tu te prennes de taquet en mode « Oh, tu fais quoi là ? C'est sérieux ?» Non, parce que tu jouais ton personnage. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est super chouette et qui peut vraiment permettre d'aider. Dans le même sens, il y a justement ce choix du prénom du personnage. C'est-à-dire que tu peux... Il y a beaucoup de personnes trans qui aussi commencent à tester leur nouveau prénom par le jeu, en faisant un personnage comme ils avaient envie, avec le prénom qu'ils pensaient tester. Et là, vu que pendant la partie, pour garder le roleplay, donc c'est-à-dire rester dans l'ambiance, on va t'appeler avec le nom de ton personnage, ça veut dire que pendant plusieurs heures, on va te parler avec ce prénom, que souvent, si tu fais que jouer avec ces personnes, quand ils vont te recroiser, ils peuvent même te parler avec ce prénom dans la vie réelle parce que tu vas parler de ça. Et ça, pareil, ça peut vraiment mettre en confiance en disant « Putain, mais là, je me sens trop bien quand on m'appelle un tel. »
Dans le genre peut-être différent.
Et voilà, c'est peut-être ce qu'il me faut. Quoi. Mm-hmm. Donc ça, c'est une première raison. Fait. La deuxième raison, c'est le côté social. C'est un jeu social et ça peut vous permettre d'expérimenter des points de vue. Et justement, là, il y a ce truc de pouvoir découvrir l'autre, de jouer des positions, de jouer la position d'une personne racisée si on n'est pas racisé. Il y a vachement d'empathie en fait, qui est mis en place parce qu'on doit justement bien faire son personnage. Mmh. Donc ça peut permettre, alors là, c'est pour tout le monde, c'est pas que pour les personnes queer, mais ça peut permettre justement de se mettre dans la peau de quelqu'un qu'on n'est pas, quand t'es un mec, de te mettre dans la peau d'une fille, de se dire qu'est-ce que ça fait d'être dans une fille dans un milieu moyenâgeux où du coup la place des femmes n'est pas forcément toujours bonne.
Bon, après, il faut être avec lutter. Des maîtresses et des maîtres du jeu qui sont quand même relativement alertes
des
mecs entre eux, hétéros, qui n'en ont rien à foutre, je pense que ça les fait pas beaucoup avancer quand même.
C'est vrai aussi. Ils peuvent découvrir, si tu mets une mission où ça parle d'esclavage. Ça, tu peux arriver à montrer justement ce que c'est l'oppression d'être esclave, qu'est-ce que ça amène.
Mais au final, tout dépend quand même.
À réfléchir, quoi.
Tout dépend quand même de la maîtresse ou du maître du jeu. Mmh. C'est quand même cette personne-là qui définit aussi l'implication politique.
Oui, là, tu es en train de me casser mon deuxième argument.
Non, je suis désolée, mais c'est vrai, quoi. Tu vois, je me dis, franchement, s'il y a des gens qui ne sont pas du tout amenés à être intéressés par des choses comme ça, au final, ils ne font que perpétuer.
Pour bien jouer son personnage, souvent, les gens, on appelle ça le persona, c'est parler à travers le positionnement de son personnage. Je pense que ça peut quand même dans une partie de beauf. Vu que si tu t'amuses justement pour faire le décalé à jouer quelque chose, juste t'arranger à bien jouer par rapport à ton perso, donc du coup à jouer des choses que toi t'aurais pas dit personnellement, et ça peut peut-être quand même mettre une petite graine en disant ah ouais, là c'est vrai que c'était compliqué et du coup ça peut me faire évoluer. On va dire c'est le côté que j'espère, mais c'est vrai que du coup c'est aussi un outil, le jeu de rôle qui est utilisé en thérapie, notamment avec les personnes neurotypiques. Parce que justement, ce côté de jouer des personnages, ça peut permettre justement à des personnes d'arriver à calmer un peu les problèmes psychologiques qu'ils peuvent avoir. Et en sachant qu'il y a beaucoup de personnes trans qui sont neuroa, ça peut justement allier les deux, quoi. Et je sais que y a des gens, des éducateurs, qui jouent aux jeux de rôle dans les IME, des trucs comme ça, parce que du coup, c'est un truc vraiment pédagogique qui permet aux jeunes de sentir mieux, quoi.
Tu te mets à l'écart de ce que tu vis dans le monde réel.
Ouais,
tu
crées autre chose. Et puis, il y a ce côté peut-être empathique, ce truc, y a quand même des règles qu'il faut arriver à suivre. Donc, ça t'apprend un peu comment aussi il faut faire avec la société, même si c'est compliqué. Et vu que là, c'est dans le cadre du jeu, c'est moins violent. Mm-hmm. Parce que ça peut permettre de calmer des choses, quoi. Et puis, comme je dis, ça permet... Enfin, il y a un des avantages, c'est que aussi dans le jeu de rôle, on peut lutter contre ce qui est mal. On peut aller détruire des méchants esclavagistes, on peut aller tuer des vilains homophobes.
En fait, c'est mieux que dans le vrai monde.
Et oui, au moins, dans ça, il y a plus de chances qu'on puisse y arriver vraiment que dans le vrai monde.
Au cours de ta vie.
Donc oui, là, c'est la fuite dans l'imaginaire. Le troisième point, c'est que c'est quelque chose de moins compétitif que les autres jeux. Parce que souvent, même s'il y a des jeux coopératifs, mais dans le jeu de société, il y a quand même, il faut gagner, il faut être le meilleur, il faut être le premier. Alors que là, il y a une logique de groupe. C'est que souvent, on s'arrange justement pour que le groupe reste justement soudé. Souvent, tu vas faire un personnage qui a un domaine d'expertise propre et qui est complémentaire avec les autres. Donc, il n'y a pas cette concurrence de non, je vais être le meilleur, je vais être le leader, nanana. Il y a ce truc de on a tous besoin d'un soigneur, on a tous besoin d'un mec qui frappe fort, on a tous besoin de quelqu'un qui encaisse bien et quelqu'un qui fait de la magie. Et du coup, on va tous arriver à essayer de faire avancer ensemble.
C'est peut-être être complémentaires les uns des autres.
Ça équilibre et ça, d'un côté, ça peut être sympa. Ça peut éviter ce truc de guerre d'ego. Alors, ça n'empêche pas les embrouilles en jeu de rôle. Hein, mais... Et en plus, pendant l'aventure, c'est les personnages qui jouent. Mais les joueuses, il y a des moments, ils vont pouvoir parler ensemble pour dire tiens, quelle stratégie on va faire, quel plan on fait, quelle quête maintenant on met en priorité dans toutes celles qu'on a eues, quel endroit on va explorer ou celui-là qu'on va éviter. Donc, ça, il y a des discussions entre les personnages. Et entre les joueurs. Et ça,
donc c'est
intéressant,
pas un truc perso, c'est pas que une quête individuelle.
C'est vraiment coopératif. Quoi. Et en plus, l'avantage, c'est que si ton perso meurt, on peut en recréer un facilement. Et tu peux recommencer, du coup, toute autre chose, une autre vision, une autre vie, et intégrer dans le groupe un nouveau moment. Mais du coup, ça ne te fait pas dégager et attendre que les gens finissent la campagne pour revenir. Donc ça, c'est chouette. Et le dernier point, c'est le côté inclusif. Parce que c'est sûr que pour que ça marche, vaut mieux que le groupe s'entende. Donc, vaut mieux être avec des personnes avec qui on a un peu la même philosophie de vie. Et il y a aussi ce côté, quand même, c'est un loisir qui est là quand même pour casser l'isolement social. Parce que on va se retrouver pendant plusieurs heures, alors soit en distanciel, soit en présentiel, avec des gens. Sur Internet, il y a des communiqués qui se créent, du coup, à des fans de ce jeu, alors qu'ils sont pas toujours bienveillante, mais on peut créer du coup sa communauté ou rejoindre sa communauté qui est plus bienveillante. Je pense qu'il doit y avoir des communautés de queer qui jouent à D&D. Vu tous les trucs Rainbow D&D qui vendent, c'est forcément le cas. Et ça permet justement d'être moins seul, de partager du coup son plaisir pour ce hobby et de façon plutôt safe. Donc ça, c'est... Puis maintenant, avec tous les Discord, toutes les choses comme ça, je pense qu'il y a de quoi... Il y a de quoi faire.
Et se sentir moins isolé, du coup, au lieu de jouer...
voilà.
Même si tu joues chez toi, au final, tu socialises quand même à travers ce jeu-là. Quoi.
Exactement. Et comme je vous parlais, là, l'évolution dans les façons de jouer, maintenant, on parle de plus en plus dans la session zéro, donc c'est la première session avant de jouer, où on fabrique les personnages, où on voit ce qu'on a envie de jouer. Et dedans, maintenant, souvent, on essaie d'inclure justement les trigger warnings. Les choses que dans cette session, moi, j'ai pas envie de parler de ça. Ça, je veux bien un peu, mais attention. Donc ça, déjà, ça permet
à la
maîtresse de jeu de voir avant pour pas tomber justement sur des sujets. Genre, si le sujet de viol est super touchy pour une personne, que même en imagination, elle veut pas entendre parler, au moins tu le sais. Ça évite le moment cringe où tu as une scène comme ça qui se passe dans ton aventure et que la personne se sent mal, arrête de jouer parce que ça lui a rappelé des choses super dures. Mmh. Donc il y a déjà ça. Après, en jeu, tu as l'utilisation de la X-card. Donc c'est une carte avec un X dessus. Que chaque joueuse peut montrer à un moment parce qu'il y a un truc qui ne va pas et qu'elle ne le sent pas et on n'en parle pas. C'est juste, elle montre la carte, la MJ switch, passe à autre chose. Ça veut dire qu'il y a eu un problème comme ça. On n'est pas là pour se dire mais pourquoi t'arrêtes, c'est quoi qui te dérange. Non, c'est là, hop, on passe à autre chose, on continue l'aventure. Peut-être qu'on en reparlera après, mais là, ça a été une demande pour justement ne pas pousser la personne à bout,
c'est cool,
plus que ça, et permettre de continuer. Donc ça, et en plus, quand les gens jouent longtemps, il y a cette possibilité de se faire des pauses, quoi. Parce que du coup, c'est vrai que ça peut être contraignant, ça peut être. Si vous avez toute une journée pour jouer, n'hésitez pas à faire des petites sessions comme ça, 2-3 heures avec des petites pauses pour justement vous remettre des émissions. Parce qu'il y a des émotions vraiment super belles qui se passent, parce qu'on peut perdre son compagnon qui n'est pas un joueur, mais du coup un PNJ. Il y avait vraiment des choses super. Puis je vois dans les jeux de rôle d'horreur psychologique, ça peut être aussi vachement glauque, quoi, parce qu'on arrive, on se bat contre des grands anciens, donc on sait dans le mythe de Cthulhu, donc des horreurs qu'on n'arrive pas à nommer et qui sont toutes puissantes, et du coup on perd de la santé mentale, et même personnellement pour le joueur, ça peut être frustrant en fait de se voir comme ça un peu disparaître.
Waouh, génial! Il existe quand même des espaces vraiment queer au sein des JDR.
Alors là, dernièrement, il y a de plus. Enfin, ça commence à arriver. Et on trouve justement en France, il y a deux conventions qui existent et qui parlent justement de, enfin qui sont de JDR pour les queers. Donc il y a la Queervention rôliste à Rennes. Je sais pas s'ils en ont fait pendant le Covid, mais techniquement ça va être sûrement la 7e édition s'il y en a une cette année. Donc c'est un gros week-end où du coup il y a du jeu de rôle et c'est organisé par le CGLBT de Rennes, donc le centre gay, lesbien, bi et trans de Rennes. QIA+, je pense aussi. Et donc, c'est vraiment de la partie communautaire, même si on ne va pas vérifier si vous êtes bien pas hétéro quand vous y allez. Mais le but, c'est justement d'être ensemble et de jouer, parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup de rôlistes dans la communauté LGBT sur le lieu. À Strasbourg, il y a aussi un groupe qui s'appelle Fantasy Queer, qui fait un festival. Donc, c'est lié vraiment à tout l'univers fantasy, fantasy SF. Donc avec des rencontres d'auteurs et d'autrices, des conférences, et il y a aussi du jeu de rôle qui est proposé du coup pour les personnes queer. Donc là, ça commence à arriver. Et localement à Reims,
bah oui, quand même, j'allais dire,
un petit truc qui s'appelle Queer and Quest, qui existe depuis ça fait un an. Donc c'est le groupe de jeux de rôle qu'on organise à Ex Aequo. Où je fais de la pub, on est en train de chercher des MJ, donc si ça vous dit de masteriser dans une asso LGBT pour des parties entre personnes LGBT, c'est possible. Pour l'instant, moi, depuis que j'ai commencé, j'ai trois tables. Donc j'ai une table sur du Héros et Dragons, donc qui ressemble à Donjons et Dragons. J'ai une table sur Star Wars et j'ai une table dans un milieu post-apo, dont Mutant Year Zero.
Et My Little Pony, il n'y en a pas ?
Et il y a eu des. Et du coup, donc ça, c'est des trucs que je joue en. Alors les deux premiers, c'est en campagne. Mutant Year Zero, c'est une initiation. Et j'ai fait des one-shot justement sur Tale of Sequestria, donc qui est le jeu de My Little Pony, dont j'ai acheté encore un bouquin cette semaine. C'est mal. Parce que oui, le jeu de rôle, comme je vous disais, ça peut aussi vous faire dépenser beaucoup de sous.
Et donc si vous, c'est possible de rejoindre ces groupes-là quand
donc,
même
Oui, donc là, moi j'essaie de faire au moins une initiation tous les deux mois au local. Là, bientôt, on va lancer une campagne Star Wars. Donc si vous êtes fan de Star Wars et que vous avez envie de jouer, regardez les réseaux, on préviendra un petit peu avant, en sachant que j'ai déjà trois joueuses, donc moi je vais pas au-dessus de 6, je pense, parce qu'après si c'est dur à gérer, puis je reste une bébé NJ, donc il faut le temps.
Super, et ça fonctionne parce qu'on voit bien que depuis que tu l'as mis en place, en plus il y a de plus en plus de gens qui viennent participer, et puis que, enfin, on voit que c'est important pour Hello, tu vois, ce petit moment de se retrouver, de créer histoire ensemble, en fait. En plus, je pense que ça, comme tu disais tout à l'heure, au niveau social, ça crée vraiment des liens entre les gens, et quand on est un peu timide, par exemple, quand on veut venir pour la première fois, en plus dans une asso LGBT, là, ça peut être vraiment.
Parce qu'il y a l'excuse de venir jouer.
Tu joues et tu peux parler en même temps quand même, je pense. Même s'il vaut mieux quand même rester concentré si on le dit.
Il y a le avant et le après. Donc voilà. Oui, après, comme on fait quand même des pauses, on peut quand même parler. De toute façon, forcément, on va socialiser sur le jeu. En disant, tu te rappelles qu'on a fait ça, ouais, c'était trop bien. Et du coup, ça crée aussi des amitiés dans le jeu, quoi.
Est-ce qu'on ne ferait pas un petit agenda, Gwen ?
Ouais, je peux juste citer quatre jeux queer qui existent. Donc il y a un super, ça regardait sur les internets, c'est Dungeon and Drag Queen. Donc c'est des drag queens qui jouent à Donjons et Dragons. C'est un truc de Seattle en 2019, c'est trop bien. Il y a un truc qui pourrait te plaire, Mo, si un jour j'arrive à récupérer, qui s'appelle Monster Heart. Qui est créé par une personne transgenre, Avery Alder, et qui est un jeu qui, du coup, c'est tu joues dans un truc d'ado qui ont des secrets, donc il y a des vampires, il y a des garous, il y a des fantômes, ça fait très Buffy.
J'allais dire, non, c'est pas Buffy, là.
parce que du coup, il y a ce côté, on cache quelque chose et l'adolescence, c'est compliqué, nanana. Il y a Blue Rose, qui est de la fantasy sentimentale, où pour eux, les gays étaient là avant les hétéros. Donc ça a l'air trop bien.
Mal,
et il y a Queers, un jeu du coup où tu joues des sortes de super-héros qui combattent le côté obscur et l'intolérance avec la lumière et l'empathie, avec des looks totalement manga, queer, ça a l'air trop trop bien. Quoi.
Mais je suis sûre que des fois, t'as pas envie de revenir dans la vie réelle, en fait, quand tu fais des trucs comme ça.
C'est
quoi.
Le risque de... Ouais, c'est le risque. Désolé, trigger warning, vous ne vivez plus dans le réel.
Merci Gwen, merci de nous avoir partagé cette passion pour les jeux de rôle dans Daiquiri. Franchement, super, super chouette.
Et on a... je te fais jouer.
Oui, peut-être. Vous aurez peut-être la réponse dans la saison prochaine de Daiquiri, parce que je ne compte pas m'y mettre d'ici le mois prochain quand même. Et sinon, niveau agenda, on a surtout un événement à vous partager, puisque le 21 mai prochain, on organise avec Ex Aequo, mais pas que, tout un collectif d'associations et de collectifs.
AIDS, le Mac Jeune, SOS voilà. Homophobie.
Tout un tas d'associations et de collectifs à Reims ont décidé de porter une marche des fiertés cette année, qui aura donc lieu ce 21 mai.
À 14h30, on départ au Square Colbert, en sachant que dès 11h, il y aura un petit village associatif avec plein d'associations qu'on vient de citer et plein d'autres. Donc on fera la marche en ville avec deux chars, je crois. Et il y aura après un after au
Cryptoportique,
place du Forum, avec un set de DJ Zint et des performances entrecoupées de performances drag queen. Et on fera un after au local d'Execo, 25 rue du Jard, avec un karaoké endiablé jusqu'au bout de la nuit.
Wow.
Et, mais pas trop, parce que le lendemain, à 11h, à 10h30, on a une commémoration pour François Chenu et Laura Mignon qui ont été tués là, à Reims, une personne homosexuelle et une personne trans l'année dernière. C'était pour Laura, et il y a 20 ans pour François. Juste après, il y aura la conférence de Louis-Georges Autain sur place, qui est le créateur de la Journée mondiale contre l'homophobie, donc du 17 mai. Et ensuite, il y aura un barbecue dans la cour d'Execo, suivi du rapport de SOS Homophobie sur
les LGBT-phobies
de l'année
qui
dernière,
sort chaque année.
Grâce à leur ligne d'écoute. Donc ça, ça va être un truc intéressant. Et si vous écoutez cette émission, il sera juste 19h, donc courez. Il y a Laurier The Fox dans nos locaux qui vient présenter sa BD Reconnaîtrance. Donc venez nous voir, vite.
Venez si vous êtes intéressé par la BD, si vous connaissez Laurier The Fox et ses BD. Eh bien, ça se passe tout de suite, maintenant,
nous,
à 19h.
Nous, téléporte directement à Execo et vous nous retrouverez là-bas.
Voilà, direct Execo, 25 rue du Jard, c'est près du conservatoire en plein centre-ville de Reims, vous pouvez pas louper, c'est sous un petit porche dans la rue du Jard, et vous verrez, de toute manière, vous nous reconnaîtrez, hein, je pense.
Et un salut pour les gens qui rentrent.
Ben ouais, évidemment. Bon ben voilà, on termine là-dessus.
Voilà,
si ça te va,
embrasse,
Gwen.
Et puis on vous dit
moi, je vous passe mon petit truc folk pour terminer, oui. Si tu veux. C'est le premier album d'un groupe de Philadelphie qui s'appelle Sadurne.
Sadurne.
Oui, Sadurne. Ils ont commencé comme un projet solo où il y avait que Geneviève de Groot, qui a commencé seule avec sa guitare, guitare voix. Et puis après, il y a trois personnes qui sont venues la rejoindre. Et maintenant, il y a donc Jay, John, Amelia et Tabitha. Et alors que le monde s'est écroulé en 2020, on sait bien pourquoi, et bien Sadurne s'est retranché dans un chalet des monts Pocono pour créer et enregistrer ce qu'allait devenir donc ce premier album qui prend le nom de Radiator. Et ils ont avec eux, alors autour d'eux il n'y avait que quelques animaux, ils étaient complètement isolés, des animaux comme témoins auditifs de ce processus créatif, et de cet enregistrement de fortune, puisqu'ils ont juste poussé des meubles et puis enregistré comme ça un album qui a été décrit sur l'internet comme « Il vous brise le cœur, puis le répare lentement ». Et moi, j'adore.
Pour
je vous
finir,
ai sélectionné la chanson « Snake » et on vous dit au mois prochain.
Bisous,
dans
Daiquiri
sur Radio Primitive. Et salut les amis, alors. I had to walk down to turn, get a good look at my ways, and hell, maybe I've learned something from bringing out my shame. I had to lay down with her if just to see it was the same thing that got me before. Honey, I was right. I thought about it all night. I looked the snake right in his face. I've seen
salut tout le monde, bienvenue sur Radio Primitive, on est mardi soir, il est 19h, on est encore nombreux à faire les cons ce soir. Salut Elodie, salut Simon,
salut,
salut Julien, salut tout le monde.
Eh ben on vous a encore concocté un petit programme qui va partir dans tous les sens. Vous n'avez pas la moindre idée de la quantité de fou rire qu'il y a eu quand on a préparé la playlist de ce soir, mais vous pouvez nous croire, on va bien s'amuser. Alors c'est bon, la playlist est prête, j'ai pas l'intention de faire de blagues ce soir, j'ai menti, et
ça commence.
Voilà, alors on a fait une liste panachée, alors tantôt ça sera sérieux, tantôt ça sera pas du tout sérieux, après ça sera un petit peu moins sérieux. Bah attends, qui est-ce qui a choisi la première chanson? Dénoncez-vous s'il vous plaît.
C'est Hello.
Ah c'est Hello, alors vas-y, bah dénonce-toi alors.
Je me dénonce.
Voilà.